gaz lacrymogène, arrestations par dizaines, barricades, affrontements dans les rues des grandes villes de la République démocratique du Congo. Le bras de fer entre le pouvoir et l'opposition devient de plus en plus tendu. Alors que les autorités congolaises avaient interdit toute manifestation jeudi 30 novembre, les opposants avaient tout de même maintenu les grandes marches organisées pour demander le départ du président Joseph Kabila et dénoncer le report d'un an de la présidentielle. Dans ce pays de 70 millions d'habitants, où la situation sécuritaire et économique n'est pas stabilisée, cette impasse politique fragilise un peu plus la RDC. Cette crise révèle aussi la stratégie du président pour rester au pouvoir et dans le même temps, elle démontre la force de la mobilisation populaire capable d'influer sur les décisions du pouvoir de Kinshasa. C'est ce que rappelle Philippe Rengens, professeur de droit et de politique à l'université d'Anvers en Belgique.
C'est ce qu'on appelle au Congo le glissement, hein. C'est-à-dire que plutôt que de se présenter pour un troisième mandat qui serait anticonstitutionnel, ayant d'ailleurs envisagé à un moment d'amender la Constitution pour pouvoir briguer d'autres mandats, ce qui n'a pas réussi, notamment face aux protestations dans les rues de Kinshasa. Le président Kabila, bon, d'abord a fait passer évidemment la fin de son second et dernier mandat en décembre de l'année dernière. Un accord conclu sous les auspices des évêques congolais le 31 décembre 2016 proposait d'organiser ces élections dans quelques jours, au début décembre 2017. Là aussi, cette élection n'aura pas lieu pour un tas de raisons. Et maintenant, c'est reporté jusque décembre 2018. Toujours est-il qu'au Congo, bien évidemment, tant au sein de l'opposition que de la société civile, on a des doutes, puisque on a déjà reporté une fois, on pourrait reporter une seconde fois. Donc il y a incontestablement beaucoup d'appréhension au sein de l'opinion congolaise au sujet de l'organisation réelle des élections d'ici un an.
Et justement, c'est exactement ce qu'a dit l'ONU, tout en validant le nouveau calendrier électoral pour 2018. L'ONU craint que la prochaine échéance ne soit pas respectée. Est-ce qu'il y a vraiment des risques et quels sont-ils que, à nouveau, on reporte ce scrutin ?
Je crois que ce risque est réel, d'autant plus que la commission électorale ne bénéficie pas de la confiance de tout le monde. Hein. Il y a au sein de l'opposition, de la société civile, de la conférence des évêques, il y a des doutes sur l'impartialité et le sérieux de la commission électorale nationale indépendante, mais elle n'est pas si indépendante que cela, et cette commission pourrait, comme elle l'a fait par le passé, arguer sur base d'un certain nombre d'éléments, ne fût-ce que par exemple le coût, hein, il faut payer tout cela, le Congo est un pays immense, et donc l'organisation du scrutin en soi est un cauchemar logistique. Le recensement électoral n'est pas encore terminé en plus, donc il faudra voir si ce recensement sera complété avant les élections de décembre 2018. Et en plus, la commission électorale, par le passé, a insisté sur le fait qu'il faut que la paix, la stabilité règne sur l'ensemble du territoire. Il est vrai qu'il est extrêmement difficile d'organiser des élections en situation de violence. Ces violences existent depuis longtemps, en particulier à l'est du Congo, mais depuis environ un an, il y a également des violences importantes qui ont fait de nombreuses victimes, des centaines de milliers de personnes déplacées, voire réfugiées en Angola voisin. Et donc cela pourrait constituer un nouveau prétexte pour ne pas organiser ou pour prétendre qu'il est impossible d'organiser ces élections.
Alors c'est une raison pour ne pas les organiser, mais c'est aussi une conséquence que l'impasse politique a sur la sécurité et aussi sur peut-être l'économie de ce grand pays qui est très riche en ressources naturelles.
Oui, mais ça c'est ce qu'on appelle le potentiel du Congo, mais on n'achète pas grand-chose avec le potentiel. Hein. Il est vrai que le Congo a été appelé un scandale géologique puisqu'il a dans son sous-sol quasiment toutes les matières premières qu'on peut s'imaginer. Mais cela en soi ne signifie pas forcément la force d'un pays ou le potentiel économique d'un pays, puisque très souvent l'existence même de ces ressources mène à des politiques prédatrices, notamment de la part de ceux qui sont au pouvoir. Il y a eu, il y a environ un an, un rapport d'une agence qui s'appelle Bloomberg qui montre que le président Kabila et sa famille ont des intérêts importants dans cette économie qui est en grande partie une économie minière. Donc, en d'autres termes, ce potentiel peut même, dans des situations comme celle du Congo, et comme on l'a vu dans d'autres pays, un handicap, par exemple, pour reconstruire l'État, qui, empiriquement, au Congo, est à peine présent. Empiriquement, l'État congolais ne remplit pas les fonctions de souveraineté qu'un État est censé exercer, et notamment en matière fiscale, en matière de sécurité du territoire ou de contrôle territorial par l'État, en matière d'État de droit, de sécurité juridique, et j'en passe. Donc la reconstruction étatique n'est pas forcément plus facile en présence qu'en absence de ressources importantes.
Alors pour en revenir à la crise politique, justement pour mettre fin à cette situation de blocage, l'opposition a demandé en septembre dernier qu'une transition soit mise en place. Est-ce que cette possibilité existe encore et dans quelles conditions ça serait possible ?
On parle de transition depuis longtemps. Il faudrait en réalité d'abord respecter la Constitution, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'opposition n'est pas, elle non plus, sans faille. C'est une opposition qu'il est assez facile à manipuler. Il y a des membres parfois éminents de l'opposition qui sont partis dans le camp présidentiel, probablement étant payés ou ayant reçu des promesses de privilèges de toutes sortes. Et donc, je veux dire, l'opposition n'est pas une opposition tout à fait crédible. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas en comptant exclusivement sur la bonne foi de l'opposition qu'on va y arriver.
En tout cas, cette opposition, elle a réussi tout de même à rassembler, à mobiliser les Congolais dans la rue. À plusieurs reprises, il y a eu des manifestations contre Joseph Kabila. Quel est le message qu'ils veulent faire passer ? Et est-ce que l'objectif, c'est aussi de se faire entendre jusque à l'international ?
Je n'ai pas l'impression que la communauté internationale, qui fait des déclarations régulièrement au niveau des États-Unis, de l'Union européenne, a un impact particulièrement pertinent dans cette crise congolaise. C'est donc, me semble-t-il, au niveau de l'opinion des forces internes que les évolutions vont avoir lieu. Et là, il est vrai que les Congolais, et cela depuis longtemps, ce n'est pas un phénomène récent, mais les Congolais ont fait preuve d'une capacité de mobilisation populaire dans les rues des grandes villes, notamment à Kinshasa, une capacité de mobilisation considérable. Et c'est d'ailleurs suite à des manifestations et des morts dans les rues de Kinshasa que des tentatives, notamment de modifier la Constitution pour permettre au président Kabila de briguer un troisième mandat, qu'une révision de la loi électorale, un certain nombre de manipulations de soi-disant dialogue politique ont été combattues effectivement. C'est donc au Congo, contrairement à certains autres pays en Afrique, c'est au Congo un facteur qui joue. L'expérience, disons, depuis un an, depuis des mobilisations, des manifestations, notamment en septembre 2016, ont montré que c'est notamment sur ce point-là qu'on peut espérer que peut-être le pouvoir va être forcé à abandonner la position qui est la sienne aujourd'hui.
Est-ce que c'est pour cette raison que, quelque part, le pouvoir a peur de ces mobilisations et du coup les interdit comme il l'a fait pour les manifestations de ce jeudi 30 novembre ?
Oui, tout à fait. Encore faudra-t-il voir. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement ou que le pouvoir interdit des manifestations sur la voie publique. Il est vrai que cela pose un problème logistique considérable parce que les services de sécurité et de l'enseignement sont là et vont évidemment essayer d'étouffer dans l'œuf toute velléité de manifestation.
Et cette privation de liberté d'expression a été dénoncée par l'ONU justement. Qu'est-ce que ça révèle ? Est-ce qu'il y a un glissement de la part du pouvoir vers quelque chose de plus répressif ?
En ce qui concerne les manifestations, je pense que c'est bien le cas. Mais d'autre part, on constate que la presse, par exemple, au Congo, reste extrêmement libre. Il y a une presse indépendante qui s'exprime librement, et qui est fort suivie par la population. Il y a à Kinshasa, par exemple, le phénomène de ce qu'on appelle les parlementaires debout. Ce sont des citoyens qui se retrouvent autour d'endroits où on vend les journaux et où on loue d'ailleurs les journaux. On peut louer un journal à Kinshasa puisque acheter un journal pour beaucoup de Kinois est beaucoup trop cher. Et donc en lisant la presse, il y a des discussions extrêmement nourries qui se tiennent. qui renforce évidemment cette prise de conscience de la population.
Et alors, à force de multiplier ces mobilisations, concrètement, est-ce que l'opposition va finalement réussir à imposer ce qu'elle demande, c'est-à-dire le départ de Joseph Kabila ?
Je pense qu'en fin de parcours, ce sera bien le cas. Il est très difficile de dire quand. Est-ce que la date butoir ou le moment butoir de décembre 2018 sera le moment du départ de Joseph Kabila ? Ou est-ce qu'il partira après, suite à des pressions parfois peut-être violentes, dans les grandes villes du Congo ? Ou est-ce que Kabila sera obligé, sera contraint de partir avant ? Tout dépendra, me semble-t-il, pas tellement de l'attitude de la communauté internationale, mais de l'attitude des forces congolaises et qui sont présentes